Vous êtes sur RTL.
Et 12h30.
Tu sais qu'on est allé à ton concert la semaine dernière.
Oui, je sais, maman m'a dit.
Sérieusement, il y a vraiment, bon, disons quelque chose, non?
Le public était un peu pourri ce soir-là.
Il était surtout un peu absent.
12h30, 13h30.
Je veux pas que tu te fasses du mal, tu m'entends?
Je me fais pas de mal.
Mais t'as vu les marcottas, moi j'appelle ça se faire du mal.
Au contraire.
Quoi, au contraire?
Rien.
Mais si, explique-moi. Explique-moi, Nicolas.
Le journal inattendu de Florian Zeller.
Parce que je suis blessée, oui, par ton attitude. Comment tu peux dire? Comment tu peux sous-entendre? En fait, tu ne m'as fait pas confiance. Très bien, je te la passe.
Allô? Oui, c'est Tata, oui. Oui, elle a pas 100 ans non plus.
Avec Bénédicte Tassard sur RTL.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Florian Zeller.
Bonjour.
On vient d'entendre dans cette introduction des extraits de quelques-unes de vos pièces de théâtre. Bienvenue sur RTL.
Merci.
Vous êtes le rédacteur en chef de ce journal inattendu. Et on va parler théâtre avec vous, bien sûr, écriture, inspiration. Vous êtes l'auteur français le plus joué dans le monde. De grands comédiens se sont accaparés vos personnages. Mais aussi, grâce à vous, on s'intéressera au quotidien des proches des malades d'origine psychique. Comment les soutenir? C'est le reportage que vous avez commandé à la rédaction. Nous recevrons également Jessica Nelson, éditrice de manuscrits des grandes œuvres comme Céline, Zola, sans oublier un invité surprise à la fin de l'émission. Mais d'abord, Florian Zeller, vous avez une minute pour votre autoportrait, pour vous dévoiler à nos auditeurs.
Alors, me dévoiler, me présenter, en tout cas, j'ai 39 ans, je suis écrivain, j'ai la chance de faire quelque chose qui me passionne et qui correspond à mes, je dirais, à mes rêves d'adolescence. Quand je crois me souvenir, quand j'étais adolescent, je voulais faire quelque chose de ma vie. Pour moi, ça voulait dire écrire. Mais c'était un rêve qui s'était cristallisé presque exclusivement sur l'écriture romanesque. Je rêvais, j'étais un lecteur de romans, je rêvais d'écrire des romans et j'ai découvert assez tardivement le théâtre comme spectateur et c'était une sorte de coup de foudre. C'est-à-dire, j'ai été vraiment emporté, saisi par la beauté, par la magie, par la joie du théâtre. Et à partir de là, j'ai commencé à légèrement bifurquer ou prolonger ce rêve vers les scènes de théâtre, à écrire pour les acteurs, sans imaginer que ça allait prendre une place aussi grande dans ma vie, dans mon cœur. Et voilà, donc aujourd'hui, je vis, je respire, je partage avec d'autres le théâtre.
Et c'est vrai que ce théâtre a pris une place inattendue dans votre vie.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je ne l'ai pas vu venir, mais aujourd'hui... C'est-à-dire que les choses joyeuses de la vie, c'est quand on n'a pas tout préécrit et qu'on reste disponible à ce qui vient à soi. Et j'ai compris, étape par étape, à quel point ça avait un sens pour moi. Ce qui avait un sens pour moi, c'était de la beauté du théâtre, c'est-à-dire qui est une aventure collective. On partage énormément avec les acteurs qu'on choisit. On vit quelque chose avec eux, à travers eux, grâce à eux. Mais tout ça, ça s'adresse à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes. Quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment... quelque chose qui est fait pour le public.
Le public.
Voilà, et cette rencontre en direct, c'est-à-dire vivante, avec une foule vivante, elle aussi, je la trouve très simple, très ancienne, mais très bouleversante.
Et c'est ce qui vous plaît aujourd'hui?
C'est ce qui me plaît, qui m'anime et qui me nourrit même.
Florian Zeller, on revient à votre actualité, à vos passions, à vos envies dans quelques minutes. Mais d'abord, on décrypte ensemble l'actualité de ce samedi 6 avril 2019. Voici les titres. Ils sont fatigués, mais ils sont toujours là, les Gilets jaunes. Acte 21 ce samedi, avec encore des manifestations un peu partout en France. Ils sont quelques centaines en ce moment à Rouen, à Paris, rien sur les Champs-Élysées, mais deux défilés vers la Villette et la Défense. La montagne française ne veut pas du Brexit. Les professionnels des sports d'hiver attachés à la clientèle britannique. Ils l'ont prouvé ce matin à Bourg-Saint-Maurice. 25e édition du SIDAction, 173 000 personnes touchées par le VIH en France. N'oubliez pas de donner au 110 ou sur sidaction.org. Le temps, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Heureusement pour le Sud, il pleut enfin.
Oui, il fallait de l'eau, et bien là c'est servi. On a beaucoup de pluie, de fortes pluies orageuses cet après-midi, c'est déjà le cas d'ailleurs depuis ce matin en Languedoc et en PACA, ça va durer comme ça jusqu'à ce soir. La limite pluie-neige va être aux alentours de 1000 à 1200 mètres sur le massif central. À l'avant de tout cela, sur le Sud-Ouest, on va encore avoir quelques averses orageuses qui vont remonter jusqu'aux portes de la Bretagne. Bretagne, là encore de la neige en montagne sur les Pyrénées à 1200 mètres également. Et puis sinon pour le nord, pour l'est aussi ainsi que pour l'Île-de-France et la région centre, on devrait bien s'en sortir avec simplement quelques ondées en fin d'après-midi entre la Normandie, l'Île-de-France et la Bourgogne. Les températures, 19 à Paris, ce sera la ville la plus chaude de la journée, 10 degrés à Nantes, 11 à Toulouse, 13 à Marseille, 15 à Lyon, 17 à Lille et 18 à Nancy.
Merci Valérie. Le journal inattendu sur RTL. La rédaction de RTL a perdu l'une de ses grandes voix hier. Jean-Pierre Farkas est décédé à l'âge de 86 ans. Et il y a 53 ans, vous l'entendiez à cette même heure, Jean-Pierre Farkas a créé le journal inattendu en 1966 avant de partir comme correspondant aux États-Unis puis de devenir directeur de la rédaction. Écoutez Jean-Pierre Farkas dans le journal inattendu de l'académicien Marcel Achard et des comédiens Pierre Brasseur et Mireille Darc.
Jean-Pierre Farkas et
Marcel Achard.
Marcel Achard, oui, qui pour un jour et pour lancer cette nouvelle formule a bien voulu accepter d'être à ma place rédacteur en chef de 10 millions d'auditeurs. C'est la règle du jeu, vous êtes journaliste, c'est vous le patron. Jean-Pierre Farkas.
Pierre Brasseur.
Pierre Brasseur, homme de théâtre et de cinéma depuis 40 ans. Jean-Pierre Farkas, pour cette dernière édition de la Saint-Sylvestre, l'équipe des journalistes de Radio Luxembourg a vu très grand. Et pour arracher ensemble le dernier feuillet de l'agenda 1966, s'est donné deux rédacteurs en chef. D'abord, et selon la tradition, ils vont se présenter eux-mêmes, tout seuls.
Gaston Bonheur.
Mireille Darc.
Et voilà des extraits du journal inattendu présenté par Jean-Pierre Farkas sur RTL. Cette émission, si vous le permettez, Florian Zeller lui sera bien sûr totalement dédiée. Les Gilets jaunes, acte 21, cinquième mois consécutif de mobilisation et des manifestations encore prévues dans tout le pays. La semaine dernière, 33 700 participants selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. C'est peu, mais il y a encore des Gilets jaunes à Rouen, plusieurs centaines à Lyon, Dijon, Nice, Nantes, Montpellier, Toulouse ou encore Bordeaux. Il y a aussi, c'était à prévoir, des arrêtés d'interdiction de manifester place du Capitole à Toulouse, dans les centres-villes d'Auxerre et de Bourg-en-Bresse. Et comme d'habitude maintenant, pas question de laisser les Gilets jaunes défiler sur les Champs-Élysées à Paris. Deux manifestations se tiennent dans la capitale, la première de la gare Montparnasse au bassin de la Villette et l'autre que vous suivez, Gauthier de Lombugard. De la place de la République jusqu'au quartier de la Défense, Gauthier, ce sont des Gilets jaunes plutôt fatigués de manifester sans rien obtenir.
Effectivement, ils sont plusieurs centaines au pied de la statue de la République. Ambiance barbecue avec les ventes de saucisses grillées et les odeurs de merguez. On se prépare en musique pour se motiver avant, comme souvent le samedi à Paris, une longue marche, plus de 10 km à parcourir pour le cortège afin de rejoindre la Défense. 21e mobilisation pour Vincent, un gilet jaune de 18 ans qui commence à fatiguer.
Je lâcherai rien, même si j'en ai marre à force, parce que là c'est le 21e acte que je fais et du coup là je commence un peu à au niveau des jambes, au niveau mental, moral, on en prend un coup. C'est qu'ils nous écoutent pas, genre là ça va faire 5 mois qu'on manifeste et on n'a toujours pas de changement. Au début du mouvement, les taxes de l'essence elles ont baissé parce qu'ils nous ont écoutés, mais là si vous regardez, l'essence elle a réaugmenté depuis.
Des slogans à crier tous les samedis sans rien obtenir, c'est aussi le sentiment partagé par François, un retraité parisien.
On avait dit au départ le grand débat devait s'arrêter le 15 mars. C'est reporté un mois après parce que monsieur Macron n'est pas dans le grand débat, il est dans sa campagne des européennes. Les frigos sont vides. Les placards sont vides et on n'a toujours aucune réponse du gouvernement. Je pensais que justement, à travers les grands débats, qu'on aurait des réponses. Et on s'aperçoit que 4 mois après, si on n'a pas de réponse aujourd'hui, on n'aura pas demain.
Le cortège devrait s'élancer dans 30 minutes à peine. Un millier de gilets jaunes pour le moment, mais peu importe le nombre, a écrit ce manifestant au dos de son gilet. Soyons et restons visibles.
Gauthier de Lombugard, dans l'une des manifestations parisiennes, hier soir, ils étaient une quarantaine devant la villa des Macron au Touquet, dans le Pas-de-Calais. Les gilets jaunes sont restés environ 2 heures sur place, dans une atmosphère bon enfant. À Saint-Nazaire, 500 gilets jaunes venus de toute la France assistent en ce moment à leur seconde assemblée des assemblées. Groupe de travail, réunion en plénière. Il s'agit d'envisager la suite du mouvement maintenant que le grand débat national est terminé. Première restitution de tout ce qui a été dit à partir d'après-demain, annonce du chef de l'État attendue pour la mi-avril. Florian Zeller, le mouvement des Gilets jaunes, vous le suivez ?
Bah, comme tout le monde, on le suit parce que ça s'impose à l'actualité. Mais je me souviens au début du mouvement, j'avais été interpellé par... comme tout le monde d'ailleurs, par la terminologie choisie acte 1, acte 2. Oui. J'ai trouvé ça assez judicieux d'ailleurs. d'emprunter la terminologie de la dramaturgie, parce que ça invite à la continuité de la lutte, mais simplement une tragédie, on sait qu'elle a 5 actes, et c'est pour ça qu'elle a de la puissance. Quand on arrive vers le 4e acte et le 5e, on sent la résolution arriver, et donc la puissance qui va avec. Là, une pièce qui aurait 21 actes, elle aurait légèrement tendance à être trop longue, à s'épuiser, on comprend ce dont qu'on vient d'entendre, la lassitude aussi de ceux qui sont justement sur scène en train de défendre leur vision du monde.
Le reste de l'actualité, c'est ce 2e séisme enregistré en 3 semaines en Charente ce matin. Une secousse de magnitude de 3,6 sur l'échelle de Richter a réveillé les habitants de Barbezieux et de Jonzac à 7h15. Le séisme du 20 mars dernier n'avait pas engendré de dégâts. Il semble que c'est encore le cas aujourd'hui. En revanche, à Sauvian, dans l'ouest de l'Hérault, une mini-tornade a touché un quartier la nuit dernière. Pas de victimes, mais une trentaine de toitures endommagées. Écoutez le témoignage de Frédéric, cet habitant plutôt secoué. C'est sa maison qui a été la plus touchée.
Donc à 5h30, il y a eu un gros bruit sourd, donc la maison a tremblé. C'est très impressionnant, oui. Ouais, ça en est réveillé, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ont eu très peur. Et ce tremblement de la maison, quoi, c'est vraiment comme un tremblement de terre. Ça nous a surpris, on s'est levé et on a vu les dégâts déjà dans la maison, parce qu'il y avait toute l'isolation de la maison qui était par terre, de la toiture qui était par terre dans la maison. Le plafond, et quand on est sorti, on a vu les dégâts aussi sur la toiture. C'était impressionnant, quoi. T'as les deux portails cassés, salon de jardin, les deux toitures, voilà, tout a été, la voiture, voilà, beaucoup de dégâts. Mais pas de blessés, donc le plus important.
Un habitant de Sauvian avec Aline Thibal. Une pause, et dans un instant, les stations françaises de sport d'hiver qui disent non au Brexit.
Le journal inattendu sur RTL.
Sur le site.
Le journal inattendu de Florian Zeller.
Avec Bénédicte Tassard sur RTL.
C'était le dernier Eurostar de la saison et il est parti à 9h34 de Bourg-Saint-Maurice pour Londres, sous les champs des Montagnards. Une bonne partie des stations et des hameaux de la Haute-Tarentaise se sont mobilisés ce matin pour prouver leur attachement aux clients britanniques. Le Brexit, ce n'est pas bon pour les affaires, Serge Pouillot. C'est un geste qui a touché les vacanciers britanniques sur le départ.
Oui, ces touristes anglais en partance pour Londres ont apprécié cette manifestation organisée par les responsables des stations de ski qui leur ont offert café et croissants. Sur une pancarte à l'humour britannique, on pouvait même lire « Roast beef et croissants forever ».
Ouais, c'est chouette, c'est très chouette. C'est excellent de voir d'autres personnes qui pensent la même chose que nous.
Moi, je suis européenne. On remercie tous les Français parce que c'est très important de nous soutenir ce matin. Je vous remercie. Les Français, nos amis.
Gérard Matisse, maire adjoint de Val d'Isère.
Ils font partie du socle de notre clientèle. Ils apportent une fréquentation dont on a besoin. L'absence d'une clientèle comme la clientèle anglaise, pour nous, ce serait véritablement le mot catastrophe.
Donc le message est, nous vous aimons, restez avec nous.
Nous vous aimons mieux encore, nous voulons vous accompagner contre ce Brexit.
Et le dernier Eurostar de la saison a quitté la gare de Bourg-Saint-Maurice en musique sur fond de tube des Beatles.
Serge Pueyo à Bourg-Saint-Maurice pour RTL. Florian Zeller, est-ce que le Brexit, ça vous interpelle? Est-ce que vous êtes inquiet?
Ça m'interpelle beaucoup, d'abord de cœur. Moi, je suis vraiment fondamentalement européen. Ensuite, je passe beaucoup de temps à Londres, où je travaille beaucoup pour le théâtre. Donc, je sens un peu ce qui se passe dans le cœur, en tout cas des gens à Londres, qui sont tous très inquiets parce que plein de gens disent qu'aujourd'hui, s'ils revotaient, les gens ne voteraient pas pour le Brexit.
Les Londoniens, ils ont quand même voté contre le Brexit.
Vous avez raison, mais d'une façon générale, on n'arrête pas de dire que le référendum est une bonne façon de gérer un pays. Et moi, je crois pas du tout. Non pas parce que le peuple ne serait pas capable de savoir ce qui est bon pour lui, mais parce que je crois qu'il répond pas toujours à la question qu'on lui pose. En l'occurrence, je suis assez convaincu que les gens ont voté non pas pour ou contre le Brexit, mais contre Cameron. C'est-à-dire que dans un temps donné, on exprime des colères, on s'exprime contre des représentants politiques. Et finalement, en faisant abstraction des enjeux et des conséquences. Et je pense avec assez de conviction qu'aujourd'hui, au-delà de Londres, les gens réalisent que c'est pas tellement ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'était sanctionner un homme politique. Et je crois qu'il faut toujours se méfier de ceux qui appellent au référendum comme une façon démocratique de gérer la vie d'un pays. Je crois que c'est au contraire la meilleure façon de se retrouver en contradiction avec soi-même.
À suivre donc, et puis on parlera aussi de votre actualité au théâtre à Londres notamment. Et puis les vacances de printemps débutent en France aujourd'hui, c'est la zone B qui se repose, la journée classée verte par Bison Futé. Du sport, du football cet après-midi et ce soir avec la suite de la 31e journée de Ligue 1. Hier l'OM n'a comme d'habitude pas gagné à Bordeaux, Bordeaux-Marseille 2-0, la malédiction sur les Marseillais s'est confirmée, elle dure depuis 42 ans. Lyon contre la Lanterne Rouge, Dijon à suivre à 17h et ce soir Amiens-Saint Saint-Étienne, Angers, Rennes, Nîmes, Caen et Guingamp, Bordeaux. Pour ne rien rater, le multiplex RTL, l'équipe avec Christian Olivier, Didier Roustan, de 19h30 à 23h. Et pour le Before, on refait le match. Denis Balbir et ses polémistes de 18h30 à 19h30. Du rugby aussi, 14h45, au stade Vélodrome de Marseille, Toulon contre Toulouse. Le reste de la 21e journée du top 14, ce sera ce soir. Et puis, il y a des courses, bien sûr, à Vincennes. Attention, le 16 est non partant. On rappelle les pronostics de Bernard Glass. Le 4, le 12, le 7, le 10, le 2, le 13 et le 6. La dernière minute, c'est le 7 Tessie d'été.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Florian Zeller et Bénédicte Tassard.
Retour dans votre univers, Florian Zeller. C'est d'ailleurs vous qui avez choisi cette musique qui nous accompagne, celle de Philippe Glass. Métamorphosis tout. Retour donc dans l'univers du théâtre avant tout, puisque vous êtes aujourd'hui un dramaturge fameux. Des pièces à succès, Le Fils l'année dernière, Le Père en 2012, La Mère en 2010. Bon, ça c'est pour la trilogie. Mais aussi La Vérité, Une Heure de Tranquillité, Avant de s'envoler, Le Mensonge. J'en parle dans le désordre. Mais à chaque fois, Florian Zeller, pour la création de la pièce, des comédiens de haute stature, on en écoute quelques-uns.
Tu crois que les gens se diraient quoi en le voyant à mon bras? Ils se diraient peut-être, tiens, la voilà avec son jeune amant.
Arrête!
Ah, moi, ce soir, je sortirai avec mon jeune amant.
Là, tu parles de ta fille?
Non, c'est pas cette...
J'ai même l'intention de vous enterrer toutes les deux.
Bon, vous, je ne suis pas sûr.
Ma fille? Oui.
Divorcée d'Antoine il y a 5 ans, je vis avec Pierre maintenant.
Je ne le sens pas, ce type.
Ce n'est pas un type, papa, c'est l'homme que j'aime.
En tout cas, Emma, nous sommes ravis de vous rencontrer.
Et c'est vraiment réciproque, hein.
Elle est exactement comme je l'imaginais, c'est affligeant.
Non, elle est vraiment belle, c'est évident. Hein.
Mais pourquoi il me regarde comme ça?
Non, je pourrais pas quitter ma femme pour une fille comme ça.
Patrick m'a beaucoup parlé de vous, en tout cas.
Ah.
Catherine Hegel, Robert Hirsch avec Isabelle Gélinas, Daniel Auteuil. Vous savez à l'avance qui vous voudriez voir sur scène avant d'écrire une pièce?
Pas toujours, mais la plupart du temps, oui. C'est-à-dire, je rêve beaucoup à des comédiens. C'est une façon... Je me l'imagine un peu comme quelqu'un qui serait un compositeur de musique. Et c'est tellement pas la même chose d'écrire pour un violon que pour un piano. Un acteur, c'est un corps, c'est une voix, c'est une façon d'incarner les choses. Donc,
Robert Hirsch, par exemple.
Robert Hirsch, j'ai écrit deux pièces pour lui et c'était vraiment pour lui, pour avoir le bonheur de partager une aventure avec lui que j'ai écrit. Ça s'appelait Le Père, c'était l'histoire d'un homme confronté à la grande vieillesse, disons, ou à la démence, un peu, sénile. Et j'avais moins envie de traiter ce sujet-là que d'écrire pour lui. C'est lui qui m'a emmené, il avait déjà 86 ans à l'époque, vers ce sujet-là. Et c'est un bonheur très grand d'avoir la chance, l'opportunité d'être un peu, quelques temps, quelques semaines, quelques mois, côte à côte avec des gens qu'on aime. Enfin, voilà. Pour moi, l'écriture, elle n'est pas dissociable de cet amour et de cette admiration que j'ai pour certains comédiens. Et en particulier pour ce grand Robert Hirsch qui était à mes yeux immense de virtuosité, de génie et de grandeur.
Et quand vous écrivez d'un seul trait ou ça met des mois à maturer?
C'est, en fait, chaque écriture, c'est une histoire différente, un processus différent. Je dirais que l'écriture elle-même, c'est pas toujours très long, mais pour s'approcher de l'écriture, c'est long. Moi, j'ai une structure psychique très obsessionnelle, donc c'est moins écrire que réécrire et réécrire.
Alors, restez un petit peu avec nous, le journal inattendu de Florian Zeller, c'est tout de suite la suite. On parlera de vos succès à l'étranger et puis place au reportage que vous avez commandé en tant que rédacteur en chef.
Le journal inattendu de Florian Zeller
avec Bénédicte Tassard sur RTL.
Florian Zeller, écrivain et dramaturge, est avec nous dans ce studio de RTL. On le répète, vous êtes l'auteur français le plus joué dans le monde. Nous avons Yasmina Reza, Éric-Emmanuel Schmitt, mais vous, on ne peut pas vous échapper, Florian Zeller.
I can't manage living. And it's your fault.
What's the matter?
It's Nicholas.
Oh yeah, something happened.
Yes. He's not well.
No estoy confundido, me lo dijiste. Ana, me dijiste que te ibas a ir a Londres, ¿no te acordás?
No.
Ana, ¿no te acordás?
No.
Tenés un grave problema con la memoria.
It's been going on for some time.
strange things going on.
Alors on prend la liste, rien que pour le mois de février dernier, c'est incroyable, on a compté 21 pièces de Londres, Helsinki, Toronto, Chypre, et en ce moment, Broadway, rien que ça.
Oui, c'est une chance formidable parce que c'est une façon de découvrir d'autres façons de travailler, d'autres façons de rêver, de jouer, parce que tous les pays ont des façons différentes de se penser, de s'incarner. C'est pour moi une aventure merveilleuse, vraiment, de pouvoir travailler avec d'autres comédiens.
Et quand même, là, la chance, c'est Isabelle Huppert dans la mer en ce moment à l'Atlantique Théâtre. Ça se joue jusqu'au 13 avril prochain.
Oui, c'est bientôt
c'est
la fin. C'est Isabelle
Huppert.
Ça
se passe comment pour cette pièce?
Super, c'est-à-dire que, bon, c'est en anglais. Isabelle Huppert, c'est une actrice française, évidemment. Elle est, comment dire, sans peur et extraordinairement courageuse, parce que pour faire ça, il faut vraiment...
Il faut du cran.
Il faut du cran, plus que du cran. Jouer dans une autre langue que la sienne, qu'avec des acteurs américains, tout le monde, évidemment, l'attendait avec un fusil, un petit peu. Elle a été prodigieuse, et c'était un bonheur pour moi de travailler à ses côtés, et de répéter avec elle, de la découvrir si audacieuse et si brillante. Mais à chaque fois, ce sont des aventures riches pour moi. Je suis pas toutes les créations, mais quand je peux, quand ce sont des artistes qui m'interpellent particulièrement, j'essaie de m'y associer, parce qu'on a toujours des choses à découvrir et à apprendre.
Alors, on va maintenant écouter le reportage que vous avez commandé à la rédaction de RTL, Florian Zeller, et on va parler des maladies psychiques. Vous y êtes sensibilisé, vous et votre épouse, l'actrice Marine Delterme, que l'on connaît bien au petit écran, notamment dans la série Alice Nevers, le juge est une femme. Voilà, pour les auditeurs qui veulent un petit peu resituer votre cadre familial, votre compagne, Marine Delterme, est aussi la marraine de l'UNAFAM, l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades ou Handicapés psychiques, troubles bipolaires, schizophrénie, dépression profonde. Les maladies psychiques sont les troisièmes maladies les plus fréquentes constatées en France après le cancer, les maladies cardiovasculaires. Plus de 2 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères. Une personne sur quatre en sera atteinte au cours de sa vie. Et pour les aider, donc l'UNAFAM, cette association qui aide, qui regroupe tous les aidants. Exemple, à l'antenne parisienne de l'UNAFAM, Odile Pouget est allée à la rencontre des bénévoles.
Vas-y Paul, tu nous présentes ton cas.
Une petite pièce au mur tapissé de classeurs. Autour de la table, trois bénévoles. Durant 2 heures, ils vont faire le point sur des entretiens menés dans la semaine.
J'ai reçu une jeune femme dont la mère est schizophrène.
Qu'est-ce qu'elle a compris des troubles de sa mère?
1400 personnes en moyenne, parents, frères et sœurs ou proches de malades, fréquentent ces locaux chaque année. L'UNAFAM les accueille et leur fournit en premier lieu des informations.
Ça peut être une structure qu'ils ne connaissent pas.
Evelyne, responsable de la délégation parisienne.
Ça peut être pour d'autres où le proche est absolument pas autonome, un foyer de vie qu'on leur donne, leur expliquer de l'utilité d'une protection juridique et simplement le fait de rencontrer d'autres personnes, on ne se sent plus isolé, on ne se sent plus seul.
La solitude infernale, c'est ce qu'a vécu Françoise, bénévole à l'UNAFAM depuis 12 ans.
Je suis la maman de Pauline, qui maintenant a 52 ans. À l'âge de 20 ans, les études, ravissantes, tout allait bien. Et puis, brutalement, en une nuit, elle a complètement décompensé. Un véritable drame. J'étais totalement, totalement désemparée.
Pauline, qui vit dans un appartement à côté de chez ses parents, mais dont il faut gérer la vie au quotidien. Une vie minée par une maladie, la schizophrénie, toujours tabou.
C'est pire qu'un cancer, c'est pire qu'un accident de voiture, parce qu'on ne peut même pas en parler. Les gens ne comprennent pas. Même l'entourage proche. J'ai eu un beau-frère qui m'a dit, arrête de parler de la maladie de ton enfant, parce que ça va être très mauvais pour mes enfants, moi. Les gens ont peur, une peur dramatique.
C'est aussi pour briser ce silence que l'UNAFAM organise régulièrement des groupes de parole.
Véronique, Christine, pardon.
Autour d'une psychologue.
Donc, Marie-Josée est en train de nous parler de son histoire.
Et puis, il y a ces moments de convivialité, un déjeuner partagé, des conversations à bâtons rompus entre bénévoles et famille. Paul se souvient d'un échange entre ses deux voisines.
Il y en a une qui n'osait pas s'absenter de chez elle 3 jours parce qu'elle disait « Mon fils, il ne va pas savoir se faire à manger ». Et l'autre lui disait « Bah si, moi le mien, il a appris et puis finalement, il est autonome ». Les gens, ils gagnent du temps. Au lieu d'inventer ou de faire des ronds dans leur tête, ils peuvent comparer avec d'autres. Ça les aide à trouver la bonne attitude.
Un espace de parole, de conseil. Les familles y trouvent leur compte. Les bénévoles aussi.
J'ai du temps disponible, ça a du sens. C'est de la solidarité humaine.
On s'occupe des autres et on se fait du bien à soi-même. Et en même temps, comme je vais mieux, j'aide ma fille.
De se sentir utile, c'est un vrai plaisir dans la vie.
Le reportage d'Odile Pouget avec les bénévoles de l'UNAFAM. Ils sont courageux, ces bénévoles, Florian Zeller.
Oui, ils sont courageux parce qu'il y a presque cet héroïsme invisible de tous ces gens qui n'ont rien demandé, mais qui sont de fait obligés de s'occuper souvent de leurs enfants, qui sont atteints de troubles psychiques. Et c'est comme un trou noir dans une famille, ça dévore tout, la joie, la vitalité. Et souvent, les gens ont l'impression qu'ils sont les seuls à vivre ça. Or, comme vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Et de se rappeler qu'on n'est pas seul, c'est déjà une sorte de consolation. Moi, ça me touche énormément. J'ai écrit une pièce qui s'appelle Le Fils, où c'était justement l'histoire d'un adolescent qui allait plus en cours. On savait pas très bien si c'était une dépression, l'adolescence, la crise d'adolescence, quelque chose d'autre. Et c'était davantage l'histoire de ses parents qui tentaient de le sauver, qui découvraient à leurs dépens que l'amour, parfois, ne suffit pas. Et cette pièce, ensuite, a voyagé. Elle a été créée dans d'autres pays. Et j'ai découvert, vraiment très concrètement, à quel point d'autres pays envisageaient ces problèmes différemment. Et j'ai compris qu'en France, on était très ignorant des maladies psychiatriques et très, il y avait une sorte de honte qui va avec l'ignorance de ce que c'est. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont, je crois, ou de jeunes gens qui sont tout seuls avec leur souffrance. Parce que la maladie psychiatrique, c'est avant tout de la souffrance.
La
solitude et de la souffrance. Et l'impression qu'on est les seuls à être comme ça. Et ce sont des gens qu'il faut diagnostiquer, accompagner. Il y a des solutions. Mais pour les envisager, il faut avoir le courage de se poser ces questions-là, d'aller voir des gens qui peuvent avoir des réponses et de pas avoir honte de se dire que peut-être on est quelqu'un de plus fragile que les autres. Et voilà, il y a plein d'autres maladies autour desquelles il n'y a pas de honte et il y a aucune raison qui justifierait que la schizophrénie, la bipolarité ou d'autres types de fragilités psychiques soient comme ça, honteuses, on n'en parle pas, on ne veut pas les envisager comme si c'était associé à de la folie pure.
Merci Florian Zeller de nous avoir fait découvrir Luna Femme. Vous êtes bien sur RTL. Dans un instant, après le rappel des titres de l'actualité, nous découvrirons encore de nouvelles facettes de notre rédacteur en chef. RTL.fr. Avouons-le, il est 13h et bientôt 3 minutes.
Le journal inattendu de Florian Zeller.
13h, les titres de l'actualité.
Bénédicte Tassard.
Et voici le rappel de titre. Manifestation dans le calme à Rouen. Premières interpellations, place de la République à Paris. Les Gilets jaunes, acte 21, avec des défilés un peu partout en France. Des défilés clairsemés qui coïncident avec la fin du grand débat. 6 ans de prison pour les 2 pilotes français impliqués dans l'affaire de Air Cocaïne. La cour d'assises spéciale d'Aix-en-Provence a condamné hier 7 des 9 accusés à des peines allant jusqu'à 18 ans de détention. Du football, cet après-midi pour la 31e journée de Ligue 1, Lyon affronte Dijon à 17h. Et puis à 20h, Amiens-Saint-Etienne, Angers-Rennes, Nîmes-Caen et Guingamp-Monaco à suivre ce soir dans le multiplex RTL. L'équipe à partir de 19h30. Et puis le temps, elle vous est offerte par Florian Zeller. C'est une tradition. C'est aujourd'hui un journal inattendu. C'est le rédacteur en chef qui fait la pluie et le beau temps. C'est à vous Florian Zeller.
Alors le ciel sera bien lumineux cet après-midi, du nord à l'est et malgré quelques ondées, le soleil se montrera également de la Normandie aux Alpes du Nord. Plus au sud, des nuages, des pluies et des orages, notamment en Languedoc ou en Provence. Les températures sont comprises entre 9 et 19 degrés de l'Aveyron à Paris.
Ça vous plaît, non ?
Oui, c'est l'inverse de d'habitude. Il fait beau en haut, au nord, pardon, et moins beau au sud.
Merci Florian.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Florian Zeller et Bénédicte Tassard.
Et oui, Florian Zeller, on a fouillé dans votre biographie, il n'y a pas que les romans, il n'y a pas que le théâtre. Vous avez flirté avec la chanson en écrivant ce texte pour Christophe, Tonight Tonight. Là encore, c'est une autre forme d'écriture.
Oui, mais c'était un flirt, comme vous l'avez dit, un flirt avec Christophe, qui est un chanteur que j'aime beaucoup, un artiste plutôt que j'aime beaucoup, qui est une sorte de dandy. J'adore sa déconnexion avec le reste du monde. Il est ce qu'il est, indépendamment des autres. Il a une force comme ça, magique.
Vous l'avez rencontré comment ?
Je sais plus très bien, je le connais depuis longtemps. Si, je l'ai rencontré dans un festival de cinéma, on était tous les deux jurés, dans un festival de cinéma et on est devenus très amis. Il a composé des musiques pour certaines de mes pièces et j'ai passé un temps considérable à ses côtés, à le regarder travailler, traverser la nuit, parce que c'est quelqu'un qui travaille que la nuit. Et je l'ai trouvé toujours si singulier que je le trouve admirable.
Et quand on vous a demandé ce que vous aimiez en musique dans votre liste, il y avait du Christophe, bien sûr.
Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, les musiciens sont ridés sur ce clavier.
Les paradis perdus, pourquoi cette chanson ?
Je sais
pas bien, en fait. Je crois que c'est la première de ces chansons que j'ai écoutées, qui m'a saisi, où j'ai senti qu'il avait quelque chose de particulier, une mélancolie un peu insaisissable qui m'a touché.
Alors, concernant vos multiples talents, écoutez la question que vous pose maintenant l'explorateur Jean-Louis Etienne qui était assis à votre place la semaine dernière.
Bonjour, c'est Jean-Louis Etienne. Alors, je vous connais à travers vos ouvrages. Je sais que vous êtes écrivain, metteur en scène, auteur de nombreuses pièces de théâtre, que vous êtes joué partout dans le monde, que vous côtoyez tous les comédiens. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous n'avez pas envie un jour de devenir l'acteur ?
Monter sur scène ou devant la caméra, Florian Zeller, est-ce que ça vous tente ?
Non, pas du tout. J'aime infiniment ce métier d'acteur. J'adore le regarder, travailler avec les acteurs. Mais je pense que ce qui est important dans la vie, c'est de savoir quelle est la place que l'on a envie d'occuper. Et moi, j'aime particulièrement au théâtre, justement, d'être dans les coulisses, dans l'ombre, et d'exister à travers le corps des autres, et non pas d'être dans la lumière.
Vous connaissez un petit peu le métier, donc si votre épouse est comédienne, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Il y a des choses qui vous effraient ou pas ?
Non, je pense que ça correspond à une nature particulière. Je pense qu'il va avoir une grande spontanéité, une immense générosité. Et peut-être moi, je ne suis pas assez spontané pour être acteur. Je suis trop contenu dans ma tête, je dirais.
Alors, même si vous n'êtes pas acteur, Florian Zeller, votre nom s'affiche aussi sur le grand écran.
Daniel !
Oh, Patrick !
Dis-nous ensemble ce soir, si tu veux.
Avec plaisir. Comme ça, je pourrais enfin vous présenter Emma.
Il se délecte de te voir faire ce que tu fais.
Ce que je fais, qu'est-ce que je fais ?
Du lèche-vitrine.
Du quoi ?
Du lèche-vitrine.
Et tu délires totalement, il est juste venu dîner à la maison pour nous présenter la femme que j'aime. La femme qu'il aime. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec toi. Sur les vieilles histoires entre elle et moi. En plus, histoire complètement insignifiante d'il y a plus de 20 ans. Alors franchement...
Tu crois ?
Mais je te promets, ça ne te concerne pas. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Hein ?
Cette fille-là, intéressée, est cupide.
Mais putain, mais arrête maintenant, tu fais chier.
Ça se dit pas à son papa des choses comme ça.
Mais vous savez quoi, adoptez-le, je vous le laisse.
Vous avez vu comment elle parle à son papa?
C'était Jean Rochefort qu'on entendait là.
Ça fait plaisir d'entendre son rire. Jean Rochefort dans Floride.
Dans Floride. Floride, c'était l'adaptation du père, justement, de la pièce Le Père, qu'avait joué Robert Hirsch. Alors, le film est très, très éloigné de la pièce, mais il en reste cette présence ensoleillante de Rochefort. C'était un tournage difficile parce que, voilà, il était déjà un peu affaibli, mais. Comme tout acteur, il s'est offert entièrement pour ce rôle et c'était son dernier rôle. Il y a toujours une sorte de charme particulier d'entrevoir les derniers moments d'un si grand artiste.
Vous avez beaucoup de demandes pour des adaptations au cinéma ?
Oui, mais moi, mon cœur, il bat pour le théâtre. Le mystère qui n'est pas épuisé pour moi, c'est vraiment le théâtre. Tous ces films-là, il s'agit en général d'adaptations de mes pièces qui sont emportées par d'autres que par moi. Ce ne sont pas véritablement mes projets dans le sens où un film, c'est le projet d'un metteur en scène. C'est pas le projet d'un co-scénariste ou d'un scénariste. Vous voyez ce que je veux dire? Le cinéma, c'est vraiment le metteur en scène qui est le chef d'orchestre.
Une pause, vous écoutez le journal inattendu de Florian Zeller et nous revenons presque tout de suite avec votre invitée, l'éditrice Jessica Nelson.
Bougez plus. Le journal inattendu sur RTL.
Avec Florian Zeller et Bénédicte Tassard.
C'est vrai que c'est un peu inattendu sur RTL. Couperin, Florian Zeller.
Oui, c'est la troisième leçon des ténèbres. Moi, j'ai une immense fascination pour la musique baroque et en particulier pour ce compositeur François Couperin. J'ai passé des centaines d'heures à écouter cette composition qui est, à mon sens, une des plus bouleversantes. Les leçons des ténèbres. Rien que le titre, je trouve que c'est une invitation à la méditation, la leçon des ténèbres.
Florian Zeller, rédacteur en chef de ce journal inattendu, et nous accueillons ensemble dans le studio de RTL votre invitée, Jessica Nelson. Bonjour à vous.
Bonjour.
Jessica Nelson, vous êtes éditrice. Mm-hmm. Vous avez co-créé les éditions Dessin Père et qui a cette particularité dans le métier de rééditer les manuscrits des grandes œuvres, par exemple.
Ou parfois d'éditer, parce que souvent, ce sont des documents qui n'ont jamais été vus par ailleurs et nous en sommes les premiers éditeurs pour notre plus grand plaisir. On parlait de musique il y a un instant et on a publié par exemple il y a quelques années le dernier carnet musical de Mozart jusqu'à aujourd'hui les œuvres manuscrites d'Arthur Rimbaud, donc les poèmes manuscrits d'Arthur Rimbaud tout récemment.
Florian Zeller, vous teniez à la présence de Jessica Nelson dans ce studio.
Oui, mais je trouve que c'est fabuleux le travail qu'elle fait, les éditions des Serpères, parce que en fait, c'est pas publier les textes, c'est publier les manuscrits, c'est-à-dire on voit l'écriture des artistes. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus fascinant de pouvoir rentrer dans les coulisses de la création. Et ça nous apprend énormément de choses sur les œuvres. Il y a une sorte d'émotion particulière quand on aime un artiste, de voir comment il a écrit. Parce qu'en voyant le manuscrit, on le voit écrire, en fait. On voit ses hésitations, ou qui il est, par exemple. Très rapidement, je me souviens qu'il y avait un manuscrit que j'ai adoré, c'est celui de Boris Vian. J'adore Boris Vian. Et quand il écrit L'écume des jours, il a 26 ans, je crois, il n'est pas encore Boris Vian. Il travaille à la FNOR, c'est donc un ingénieur, mais un ingénieur un peu partagé et malheureux parce qu'il rêve d'autre chose. Et il est dans son bureau, et le recto des pages, c'est des pages de la FNOR, c'est-à-dire des pages d'ingénieur, quoi, avec des chiffres, etc. Et au verso, quand personne ne le regarde, il écrit en cachette cette autre vie qu'il appelle, et il écrit comme ça L'écume des jours. Et donc ce manuscrit porte justement visuellement la signature de ce qu'il n'est pas encore, cette dualité de tout artiste. Et pour chaque manuscrit, il y a une histoire comme ça derrière que je trouve superbe, et c'est ce que je trouve incroyable.
Et Boris Vian, il écrivait, il dessinait aussi.
Il y a quelques petits dessins dans ce manuscrit, absolument. Et c'est vrai que quand un manuscrit est enrichi de dessins, c'est encore un autre ajout supplémentaire à la compréhension qu'on peut avoir d'un univers ou à l'approche qu'on a d'un écrivain. Mais ce que dit Florian est très juste, c'est-à-dire que publier, découvrir un manuscrit, c'est à chaque fois une aventure qui ne ressemble en rien à la précédente. Parce qu'évidemment, chaque auteur a ses particularités, a sa façon d'écrire, a sa manière de soit de se reprendre, soit de disperser aux quatre vents ses manuscrits. C'est le cas de Rimbaud, par exemple, si on va prendre un cas en particulier, c'est-à-dire que les manuscrits existent dans différentes collections, dans différentes institutions, et il s'est agi, puisque nous souhaitions en rassembler un maximum pour donner vraiment ce panorama de quelques années très courtes dans la vie de Rimbaud, qui, je rappelle, a cessé d'écrire à l'aube de ses 20 ans, mais rassembler toutes ces pièces et parvenir à les mettre toutes ensemble était une aventure aussi bien, je dirais, fascinante sur le plan intellectuel, poétique, littéraire, historique également.
Mais c'est long, c'est un long travail.
Tout dépend du manuscrit qu'on choisit, évidemment, parce qu'il y a ce travail de collecte du document, de compréhension de là où il nous amène, et également, de travail sur les images elles-mêmes, puisque la particularité de la maison, c'est d'offrir la sensation que vous possédez un original. Et donc, on a un travail au préalable qui est celui d'un restaurateur de tableaux.
Sur le papier.
Sur le papier, sur les documents, et qui vous permettent de vraiment plonger, quand on ouvre un de nos ouvrages, dans quasiment l'original.
Quel est l'écrivain qui vous a le plus touché, Jessica Nelson?
C'est vrai que Rimbaud a, je crois, a ce pouvoir assez universel de pouvoir toucher autant de lecteurs, autant de passionnés. J'ai un grand faible pour Cocteau. Cocteau, c'est un auteur qui est très représenté dans la maison, dont nous avons édité plusieurs œuvres manuscrites. La Belle et la Bête, le scénario écrit par Cocteau après la guerre, avec des dessins extraordinaires. Et sans doute, celui qui m'a le plus touchée était Le Mystère de Jean Loiseleur. Alors là, c'est une œuvre qui est très méconnue du public, puisque éditée à quelques exemplaires seulement dans les années 20. Et c'est quoi? C'est une série d'autoportraits que Cocteau a réalisé dans une glace, dans une chambre d'hôtel, après la disparition de Radiguet. Il était éperdu de chagrin sous opium et il s'est mis à dessiner et à écrire quelques aphorismes qui sont d'une beauté, d'une puissance, d'une tristesse aussi renversante.
Florian Zeller.
En fait, ce sont des chercheurs de trésors parce qu'il faut les trouver, ces documents-là, les restaurer, les publier. Alors, ce sont des petites quantités parce que ça reste des objets rares et précieux. Mais en même temps, c'est aller fouiller dans le passé et je trouve que c'est aussi une maison d'édition qui est vraiment d'aujourd'hui parce que, par exemple, je crois que les manuscrits s'achètent que sur le site internet des éditions des Saint-Pères. Donc, c'est une sorte de maison d'édition moderne, quelque part, mais qui va chercher dans le passé des éléments de beauté. Et la beauté, il n'y a rien de plus précieux et je trouve que ça mérite d'être salué.
Et justement, quel livre marche le mieux? Les acheteurs, ils sont intéressés par quoi?
Écoutez, on a vraiment des gens très différents qui se présentent à chaque publication. On a des passionnés d'une œuvre ou d'un auteur, naturellement. On a des gens qui vont s'intéresser en particulier à un manuscrit pour des raisons personnelles, parfois universitaires, il y a des chercheurs. Donc on s'adresse vraiment à un public qui, qui varient. La Belle et la Bête, dont je parlais il y a un instant, était un cadeau de Saint-Valentin très prisé par un certain type d'acheteurs. Rimbaud, aujourd'hui, parle encore une fois de façon très universelle à un large public. Donc je dirais que chaque publication est une surprise et chaque publication nous permet de parler à des cœurs différents.
Moi, je suis tombé sur un des manuscrits de Céline, c'était Le Voyage au bout de la nuit, qui est un texte magistral, mais de rentrer comme ça dans l'écriture, c'est un autre voyage. Et j'ai découvert par exemple une phrase, moi ça m'a interpellé, il y a cette qu'on connaît qui dit « L'amour, c'est l'infini à la portée des caniches », qui est pour moi en tout cas une des phrases clés de ce livre. Et j'ai découvert en feuilletant ce manuscrit que c'était pas du tout une phrase qui lui est venue spontanément. Il y a énormément de ratures qui nous permettent de voir en fait la généalogie de cette propre phrase, c'est-à-dire du coup la généalogie du génie. Et ça, c'est pas pour les universitaires, c'est pour ceux dont le cœur bat pour Céline. D'un coup, on voit quelque chose, on est les seuls à le voir, et donc on a une sorte d'impression d'intimité avec le texte, mais avec l'auteur.
Et vous, Florian Zeller, vous écrivez à l'ordinateur ou à la plume ?
En fait, la plupart des gens aujourd'hui écrivent à l'ordinateur. Moi, j'écris beaucoup à la main, dans un processus un peu qui est le mien. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais j'écris beaucoup sur des cahiers et je fais des allers-retours entre l'écriture manuscrite et l'écriture à l'ordinateur. Donc, j'ai des dizaines de cahiers qui sont
c'est
des tentatives.
Oh là là, un client pour vous.
Oui, on va aller faire les tiroirs.
Jessica Nelson, merci d'être venue dans ce journal inattendu. Tous ces manuscrits d'écrivains sont donc édités par vous aux éditions des Saint-Pères. Allez, on marque une pause et dans un instant, on reçoit un autre invité, surprise cette fois.
Vous aimez .fr. Le journal inattendu sur RTL.
Avec Florian Zeller et Bénédicte Tassard.
Remember you were in the Chelsea Hotel.
Et cette fois, c'est Leonard Cohen qui nous accompagne, Florian Zeller, que vous avez choisi là aussi.
Oui, ça se passe dans une chambre d'hôtel et c'est pratiquement une scène de théâtre, en fait. Et je trouve qu'il a un talent narratif. Chaque chanson est une histoire. Et celle-ci en particulier, on est dans une chambre d'hôtel, au Chelsea Hotel à New York. Et je la trouve bouleversante, cette chanson. Et elle, je l'associe à ce qui me bouleverse aussi à New York. C'est une ville qui me passionne.
That was called love for the workers in song, probably still is for those of them.
Alors Florian Zeller, il est temps maintenant d'accueillir au bout du fil notre invité mystère. Bonjour invité mystère.
Bonjour.
Ah ben voilà.
Ah, tu m'as reconnu tout de suite.
Oui.
On aurait dû modifier votre voix.
Oui, voilà, ça c'est
vous êtes trop intime. Vous êtes trop intime avec Florian Zeller.
Bonjour David.
Salut mon Florian. Oh oui,
on est
intime depuis. On va bientôt fêter nos 20 ans d'amitié. On s'est rencontrés en 2001 et ça a été un coup de foudre amical. Et ce qui était merveilleux, c'était qu'on s'est fait lire nos manuscrits avant de publier nos premiers romans. Et voilà, on a suivi tout notre parcours ensemble. Et voilà, je suis très heureux d'être l'invité mystère de Florian que j'ai écouté.
Même si vous n'êtes pas très mystère, vous n'êtes pas très mystère, mais enfin vous êtes invité. C'est
oui,
essentiel.
Voilà, c'est vrai.
Mais c'est vrai que vous avez de nombreux points communs.
Bah, on a des points communs. C'est vrai que déjà, on a publié notre premier livre le même jour. Et donc, c'est vrai que du coup, on a des trajectoires parallèles. On est animés par les mêmes désirs. Et c'est vrai qu'on est aussi très bienveillants l'un avec l'autre. Moi, je suis totalement émerveillé de voir la carrière de Florian, que je suis depuis le début. C'est vrai que maintenant, il est joué dans le monde entier. Mais je me rappelle il a commencé au studio des Champs-Élysées, sa première pièce, l'autre. Il y allait tous les soirs. On était là ensemble. Et c'est magnifique de voir aussi... à travers une amitié, des parcours qui s'épanouissent et qui évoluent. Et Florian est mon premier lecteur et il me fait part de ses pièces au moment où il les écrit. Et ça, c'est très beau aussi, une amitié littéraire.
Encore maintenant, Florian
Zeller. Oui, encore maintenant. Et comme toujours, c'est vrai qu'on a grandi ensemble. Et moi, j'ai une affection immense pour David et une admiration aussi très, très grande. Et moi aussi, je l'ai vu grandir, écrire des livres et devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un des plus grands romanciers.
La délicatesse.
Exactement. Et je trouve qu'il a su faire quelque chose de son immense virtuosité d'imagination. Et il a inventé un monde, quasiment, ses personnages, une signature qui lui est propre, qui est à la fois pleine de vie, émouvante, et il arrive à se promener dans des univers différents. Son dernier roman qui vient de sortir, Deux Sœurs, c'est vraiment une sorte de thriller psychologique très très fort. Donc c'est une chance quand on aime quelqu'un et qu'on l'admire en même temps.
David Fonquinos, vous avez été étonné par le succès sur scène de Florian Zeller?
Ah, je trouve que c'est une question intéressante parce que je le connais, je l'aime et je l'admire depuis 20 ans. Donc je peux pas dire que je suis étonné de ses capacités.
Mais au début, c'était un romancier. Vous étiez romancier.
Oui, oui. Je veux dire, à ce niveau-là de réussite, c'est vrai que je disais tout à l'heure qu'on se disait toutes les choses, mais moi, je passe mon temps sur la page Facebook de Florian. Je vois qu'il est joué à Tokyo, et puis après à New York. Enfin, je vois toute l'actualité. Enfin, je suis extrêmement impressionné. Donc, j'ai pas une part d'étonnement sur la capacité ou sur le talent inouï, mais la carrière, oui, m'impressionne. Et puis, on parlait des registres. C'est vrai, ce qui est magnifique avec Florian, c'est que on a, il y a certaines pièces qui sont, voilà, absolument bouleversantes, comme le fils ou le père, mais aussi, je suis très admiratif de son, on en parle parfois un peu moins, mais de son talent de comédie. Et moi, je me souviens de La Vérité avec Pierre Arditi.
Oui.
Les gens pleuraient de rire vous avez passé un extrait. Les gens pleuraient de rire dans la salle. Et je trouve que c'est assez rare d'être à la fois un auteur, capable d'écrire de grandes comédies et puis aussi des drames qui sont universels puisque, le père, je crois, est joué dans plus de 40 pays.
Florian Zeller, tous les deux, vous vivez de ce que vous aimez?
Oui, on est très gâtés. Et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je me souviens de moments avec David où je sentais son regard bienveillant mais inquiet parce qu'il y a eu des années forcément où c'était
de vache maigre
ou de difficultés ou d'entêtement. Mais ce qui nous a liés aussi, je crois, c'est la grande bienveillance l'un envers l'autre. C'est quelque chose qui va de soi dans l'amitié, mais la bienveillance ne va pas de soi dans le monde, je trouve. Surtout dans le monde de la création où les gens sont rarement aux côtés de l'autre. Et dans toutes les choses que j'aime chez lui ou qui me touchent chez lui, il y a aussi cette conscience qu'il est un ami fiable et fidèle. Combien de fois je suis allé à ses côtés pour demander du réconfort ou des conseils et je l'ai toujours trouvé là.
Il était là.
Voilà, toujours.
Et Florian aussi.
J'adore quand vous lancez tous des fleurs. J'aime bien.
Non, mais
ça, c'est bien, c'est une belle ambiance.
Il y a une anecdote qui est assez révélatrice, c'est qu'on a sorti notre premier roman ensemble en 2001 et Florian, il a été invité pour l'émission littéraire de France 2. Et il a dit, moi, je veux venir avec David Fonquinos. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que voilà, il leur a dit, voilà, il y a un autre romancier qu'il faut inviter au moment où ils l'ont invité.
C'est le partage.
Et voilà, tout Florian est là aussi.
Merci David Fonquinos d'avoir joué le jeu de l'autre côté du téléphone.
Merci David.
Merci à vous Florian Zeller de nous avoir consacré du temps pour que les auditeurs de RTL vous découvrent mieux. C'est fait, je l'espère. C'est la fin de ce journal inattendu. Bel après-midi à tous. N'oubliez pas le Sidaction ce week-end. Vous pouvez donner au 110 ou sur sidaction.org. Dans un instant, confidentiel, Jean-Alphonse Richard pour tout connaître cette semaine de Nicole Kidman.